19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Bienvenue dans les vraies voix écoutent la France en compagnie, bien évidemment, de Mathéo Lamblot. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
En forme ?
Très en forme même.
Avec une émission un peu spéciale ce soir, puisque le mouvement de grève des pompiers a commencé aujourd'hui. Et vous êtes très nombreux parmi les auditeurs de Sud Radio, et je pense comme tous les Français, à aimer les pompiers. Et on va en parler dans quelques instants avec Stéphane Lessière-Mesba, porte-parole du syndicat SUDS10. Bonsoir. D'autres sujets, on va parler également des buralistes.
Qui eux aussi sont en colère et qui se mobilisent. Ils réclament notamment un gel de la fiscalité sur le tabac. Et on parlera aussi de nos bistrotiers, puisque oui. Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, lance sa tournée des bistrots.
Absolument.
Plus de 1000 bistrots.
Absolument. Et tous les sujets vous sont ouverts. Vous voulez réagir ? Vous aurez comme toujours ou presque la suave voix d'Aude au 0826 300 300. Nous sommes en compagnie de Stéphane Lessière-Mesba, porte-parole du syndicat SUDS10. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ah, le micro n'est pas ouvert, Maxime. Bonsoir.
Eh ben bonsoir.
Et on vous a entendu. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Et merci de votre présence. Il y a déjà une chose qui me marque en vous regardant, pour ceux qui vous regardent en vidéo.
Oui.
À l'endroit où généralement les militaires ont leur grade.
Et les sapeurs-pompiers aussi.
Et les sapeurs-pompiers aussi, bien sûr. Il est écrit en grève.
Exactement. Grève qui commence aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on avait une présentation du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, pas par le ministre Nunes, il n'avait pas forcément le temps d'accorder aux sapeurs-pompiers, mais par le directeur général de la sécurité civile, monsieur Marion. Autant vous le dire tout de suite, comme ça on sera rentré dans le cœur du sujet, il n'y a absolument rien. C'est un parpaing tout simplement creux. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut même pas aller sur les points suivants en fait. Donc on nous a proposé des textes un peu édulcorés, on change un mot pour un autre, on s'invente des histoires, mais en fait pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui a évolué depuis le Beauvau de la sécurité de 2025, pour être clair.
Et parce que souvent nos interlocuteurs nous disent qu'il y a un problème, quand il y a un plan X, Y, Z, on nous dit mais il y a un nouveau plan qui arrive, mais ils disent on n'a pas touché l'argent du plan précédent. Donc on nous fait un nouveau plan. Est-ce que vous êtes, vous, dans cette situation, les pompiers ?
Mais nous, non, parce que nous, il n'y a pas d'argent. Donc on fait des plans sans argent.
Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'argent non plus.
Oui, mais enfin, la sécurité civile française...
On est bien d'accord.
C'est 100 euros par an et par habitant.
Oui.
C'est 3 fois plus pour vos déchets.
Oui.
C'est juste 6 milliards. 6 milliards, ça peut paraître à vos auditeurs énorme, mais pas du tout, en fait. C'est rien du tout. Et sur ces 6 milliards, il y a 90% de cet argent qui vient des départements et des communes. L'État est complètement absent, et je le redirai 1000 fois s'il le faut, on est sur du régalien. Et l'État doit prendre sa part dans le financement de la sécurité civile.
Alors, Stéphane Lessière-Mesba, vous êtes représentant portant du syndicat SUDS 10, c'est les services départementaux d'incendie et de secours, mais il y a plusieurs statuts de pompiers, il y a les sapeurs-pompiers à Paris, les marins-pompiers à Marseille, les pompiers volontaires un peu partout en France.
Alors, non mais c'est très simple, je vais vous l'expliquer.
Oui.
Il faut parler de globalité. La sécurité civile, c'est la globalité. Dedans, qu'est-ce que vous retrouvez ? Des militaires qui vont être la BSPP par exemple, les sapeurs-pompiers de Paris, ou Marseille.
Ça, c'est les marins-pompiers.
Voilà, exactement. Ensuite, vous avez trouvé encore des militaires qui sont la sécurité civile quand on les envoie, par exemple, sur des tremblements de terre, des tsunamis, etc.
Absolument.
Etc. Ça, c'est une troisième partie. Et ensuite, on arrive sur les pompiers dits civils, où là, vous allez trouver, il y en a 250 000 au total, en gros, 50 000 de pompiers professionnels comme moi et 200 000 pompiers volontaires aussi comme moi, parce que j'ai le double statut, obligatoirement.
Et vous êtes tous sur le même point de vue en ce qui concerne la grève ? Ou au moins majoritairement, vous dites que là, ça ne peut plus durer.
Les militaires, ils n'ont pas le droit.
Oui,
donc
évidemment,
eux, c'est réglé. Donc on est aussi les porte-parole des militaires.
Mais vous savez, vous devez leur parler quand même de temps en temps off, et vous devez savoir ce qu'ils disent.
Mais bien sûr, les pompiers de Paris sont
aussi...
Nous, on
a des pompiers qui nous ont appelés, qui nous ont dit « Moi, j'ai un devoir de réserve, je ne peux pas parler, mais sachez que je soutiens. »
Mais bien sûr.
Voilà.
Mais on en a plein des comme ça. Les pompiers de Paris sont aussi pompiers dans nos départements. Donc c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, ou assez régulièrement, et qui nous disent les mêmes choses, en fait. Ils ont bien conscience de tout ça. En fait, on est les porte-parole. Les pompiers volontaires n'ont pas de syndicat. Ça n'existe pas.
C'est ça. Comme les militaires. L'armée,
ils ont un syndicat qui essaye d'exister, mais il n'a aucune représentativité aujourd'hui. Finalement, les seuls dans la sécurité civile à qui on a le droit de parler, c'est les syndicats de sapeurs-pompiers professionnels. Et je vous le dis tout de suite, nous on parle pour l'ensemble de la profession en fait. Quand on demande des cagoules de feu, c'est pas pour les pros. Oui. C'est les cagoules de feu pour les 250 000
mais acteurs de la sécurité. Comment expliquer que dans un pays comme la France, vous n'avez pas de... Moi, j'ai entendu tout à l'heure qu'ils avaient même des masques Covid à la place des cagoules de feu. C'était une plaisanterie ou
Mais non, c'est pas une plaisanterie parce
non,
que.
Mais attendez, excusez-moi, c'est les masques, c'était du papier, ça s'enflamme directement, non?
Mais nos cagoules de feu, c'est un bas nylon. Grosso modo.
Le nylon, il y a des produits plus ignifugés que ça quand même. Hein.
On est d'accord. Mais en fait, la cagoule filtrante existe.
Oui.
Sauf que ça coûte des sous. Il n'y a pas d'argent. On arrive toujours sur la même rengaine en fait.
C'est-à-dire qu'on vous envoie au feu.
Ouais.
Sans protection.
Oui. C'est ça.
Mais c'est de la non-assistance
Attendez, je vais vous le dire directement. Le ministre Nunes a été clair au mois d'août. Il nous fait une posture politique quand les autres partis l'attaquent. Donc, c'est-à-dire qu'il fait croire que les moyens sont là. Donc, il nous dit qu'il est le patron de l'opérationnel, donc mon patron. Il est capable de nous envoyer au feu sans les moyens pour sa carrière politique. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on ait confiance dans ce patron-là ? C'est pas possible, en fait. La politique, nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des actes. On en a marre qu'on nous dise tous les quatre matins, on vous aime. On veut aujourd'hui
mais
ce qu'on
les Français
veut, c'est
vous
des...
aiment.
Oui, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actes, en fait. Les preuves d'amour, on en a besoin, en fait. Parce que bien sûr que les Français nous aiment, mais les Français, mais aussi beaucoup la santé en 2020 pour la Covid. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il faut qu'on avance. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité civile, c'est central. Derrière la sécurité, il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a l'aménagement du territoire, il y a la santé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est débordé ? Parce qu'en fait, on a fermé tellement d'institutions sanitaires qu'aujourd'hui, quand on ne sait plus qui appeler, on appelle les sapeurs-pompiers. On n'a jamais fait autant d'accouchements que ces dernières années. Les urgences psychologiques, comme on dit si bien, c'est toujours les sapeurs-pompiers qu'on envoie. Donc si vous voulez, en fait, l'État est quand même assez vicieux dans sa façon de travailler. C'est qu'il donne pas de moyens. Il dit, si vous voulez des moyens, allez voir les collectivités. En même temps, il demande 12 milliards d'économies aux collectivités. Donc comment voulez-vous qu'on y arrive ? On ne peut pas y arriver.
Vous venez d'Auxerre.
Oui.
Il y a des élus locaux dans l'Yonne, oui, comme dans tous les départements. Là, ce n'est pas le ministère. Vous en parlez aux élus, les maires, etc. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Qu'ils sont à l'os. Ils voudraient bien nous donner, par exemple, vous savez qu'on demande 20 000 postes de professionnels.
Oui.
C'est pas nous qui le demandons, c'est l'inspection générale de l'administration.
Oui.
C'est quand même important de le dire. On peut pas reprocher à Sud ou à un autre syndicat de faire du prosélytisme sur le professionnel. Là, on en a besoin. Dans nos départements, quand on en parle, un pro, c'est 50 000 euros. Si vous en voulez 10, c'est 500 000 euros.
Oui.
Bon, c'est vite calculé. Les élus sont à l'os. Parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il nous faut du matériel moderne. On n'arrête pas d'évoluer. Quand j'ai commencé les feux de voiture en 1994... Voitures électriques, au GPL, il y en avait quelques-unes, mais électriques n'existaient pas. Les techniques sont différentes.
Oui.
Quand on découpe une voiture, elle est encore différente. Les feux sont différents, on a des panneaux solaires, etc. Je peux prendre des exemples, je peux en prendre 1000 comme ça. Et si la sécurité civile française, elle avait un avantage, c'est qu'on fait de la prévision, de la prévention pour voir, pour être bon au moment où ça nous arrive. Aujourd'hui, on n'est même pas à zéro, en fait. On a 20 ans de retard, en fait. On a perdu 20 ans. Et on a le dérèglement climatique, comme cet été, qui nous a explosé en pleine tête.
Mais Stéphane, les services, on parle souvent... Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat SUDS10. Hein.
Oui.
On parle souvent des manques de profs, parce que beaucoup de gens ne veulent plus être profs pour les conditions de travail. Est-ce que vous arrivez encore à recruter les pompiers?
Oui.
Parce que moi, on me dirait, excusez-moi, vous allez au feu, mais avec un masque Covid, c'est comme si on vous disait, vous allez au combat, mais sans gilet pare-balles et sans munitions. C'est quand même un peu dangereux, je dirais peut-être. Je blesse mon tour, non ?
Oui, mais la différence entre, je pense, vous et nous, c'est que nous, c'est dans nos veines. Et on en a besoin, en fait. On a besoin de ça, en fait. Ça nous plaît de servir la population, de défendre les biens de tout le monde, la culture française, de défendre nos forêts. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, comme vous avez certainement une autre passion dans votre vie. Et c'est là-dessus que l'État joue, parce qu'on sera toujours là, de toute façon. Est-ce qu'on a envie de laisser ? Est-ce que les victimes sont responsables d'eux ? Non. Mais
en plus, d'ailleurs, c'est un peu comme les grèves au Japon, où les gens mettent un brassard en grève. Vous avez mis en grève à la place de votre grade, mais vous continuez à aller assurer les incendies, les accidents de circulation et tout y quanti.
Et on pourrait, regardez, on pourrait demander à nos pompiers volontaires d'éteindre leur bip.
Oui.
On pourrait faire ça.
Ce qu'ils ne le feraient pas, d'ailleurs.
Mais bien sûr que non. Et on aurait tort de le faire.
Bien sûr.
Et on aurait du mal à se regarder dans une glace. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des combats qui sont sains, mais on ne peut pas prendre la population, je ne vais pas dire en otage, parce que je n'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, on ne peut pas servir de la population là-dessus. Par contre, la population, elle peut nous aider. Et pour répondre juste à votre question sur le fait qu'on a encore 3000 pompiers volontaires qui ont le concours de professionnels depuis des mois, voire des années, qui ne sont pas recrutés par les départements.
Parce qu'il n'y a pas d'argent.
Tout simplement. Et on en demande 20 000. Donc, et les 20 000 ne vont pas se faire en 3 jours. Il faut faire des concours, les former. Donc ça va nous prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on a besoin de tout ça aujourd'hui.
Stéphane Lesser-Mesba, vous restez avec nous. Ça appelle au 0826-300-300, notamment des familles de pompiers qui veulent réagir. Et comme elles n'ont pas le devoir de réserve, elles ont évidemment micro ouvert à Sud Radio. Vous voulez réagir, Mathéo, le 0826-300-300,
il y a Aude qui attend tous vos appels.
On se retrouve dans quelques instants.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
Les vraies voix écoutent la France. On a le bonheur d'avoir avec nous, on le remercie, Stéphane Lesser-Mesba, porte-parole du syndicat SUDS10, qui porte son velcro, ça s'appelle un velcro ça je crois.
Exactement, ouais.
En grève.
C'est ça.
Pour montrer que les sapeurs-pompiers sont en grève à partir d'aujourd'hui et pour un mouvement de longue durée jusqu'au 20 octobre.
Minimum.
Oui. Ah, ça va peut-être. Vous allez peut-être jouer les prolongations et même les tirs au but.
Tout dépend du gouvernement et de toute façon on ne lâchera pas.
D'accord.
Donc je pense que le message il est assez clair. On va certainement même augmenter la pression puisque ce qu'on a eu aujourd'hui c'est zéro pointé. Donc je pense qu'il va se passer beaucoup plus de choses avant le 20 octobre. Et on parlera j'espère du 27, 28, 29 septembre à Paris.
Mais on va en parler bien évidemment, mais on prend la direction de la Gironde.
Et oui, ça réagit hein, au 0800 26 300 300 et Sandra nous a appelé. Sandra, bonjour Sandra.
Bonsoir Sandra, vous êtes de la Gironde. Bonsoir. Et vous avez de la famille pompier. Et surtout, ouais. Vous venez d'une zone qui a été sinistrée, on peut le dire, cet été par les incendies, le sud-ouest de la Gironde.
Voilà, moi je viens d'une famille de pompiers, donc le papa de mes filles, mon ex-mari, était chef de caserne. Il a été sur le Cap Ferret, il est pompier volontaire, donc il a un métier à côté. Hein. Stéphane parlait très bien des pompiers volontaires et aussi les pompiers professionnels qui ont le statut aussi de volontaire, bien entendu. Donc c'est le papa de mes filles et donc j'ai vécu pendant 17 ans dans la grande famille des pompiers. Donc j'en garde l'ADN toujours.
Oui. Et quand vous voyez la grève des pompiers, vous en pensez quoi ? Vous les soutenez ?
Oh mais alors là, à 100%. Et je dirais même que j'en parle beaucoup autour de moi, parce que je connais très bien leurs problèmes et leurs revendications qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent depuis des années. Et ça pour beaucoup de services publics, comme certaines infirmières, comme le métier que j'ai exercé quelques années, que j'ai arrêté parce que ça devenait trop difficile, donc auxiliaire de vie. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des jambons, tout simplement. Parce que, pour des jambons, pourquoi ? Parce que ils ont besoin de nous et que c'est un service public et puis que voilà, ça manque de moyens. Comme on parlait pour le Covid, on allait chez les personnes âgées hospitalisées à domicile avec des poches poubelles sur la tête parce qu'il n'y avait pas de masque.
Oui, sans rappel, oui.
Voilà. Là, j'ai vu les pompiers se battre sur le front avec des bénévoles qui ont accepté, mais grandement, le service dont beaucoup ont perdu d'ailleurs leur véhicule, qu'ils ont prêté tout le long bénévolement pour les incendies de Gironde. Donc, en grande difficulté, donc, parce qu'en général, c'était des commerçants, des artisans. Et j'ai vu les pompiers aller à la mort, carrément, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, parce que les moyens, comme d'habitude, ne sont pas là. Parce que on nous a pas pris au sérieux au départ, c'est-à-dire que quand le feu a été annoncé d'abord en premier FOMOS, on l'a pris à la légère. Je pense que ils ont pas compris que c'était. Moi, j'ai su, j'étais au port ce jour-là. J'ai su dans
le port où il y a eu un nombre incroyable de maisons qui ont été détruites d'ailleurs.
Oui, ben, tout à fait. Moi, j'ai traversé le Porsche d'ailleurs le dimanche dernier parce qu'on a fait un concert solitaire sinistré avec Marc Samba qui a organisé et donc le chef Etchebet qui a été avec son groupe adorable pour une cagnotte dons libres pour les sinistrés.
Dont Sud Radio était partenaire d'ailleurs, oui.
Exactement, et on vous remercie mille fois parce qu'il y a eu énormément de monde, parce que c'était en don libre. J'ai traversé le port, bon, j'avais été déjà pour du bénévolat, mais là du coup j'étais dans les derrières, j'ai fait toute l'avenue du bassin avec les larmes qui coulaient, vraiment, parce que c'est, on peut pas s'imaginer quand on est de l'autre côté du bassin, c'est-à-dire moi j'habite au Cap Ferret, mais je me sens à présent beaucoup plus de l'autre côté, mon cœur est là-bas. Même à Biscarrosse, on peut dire, Somos, il y en a beaucoup qui se sont aussi battus contre le feu. Et je vous assure que quand vous traversez du Porche à Lacanau, c'est le cœur serré, c'est les larmes qui coulent. C'est, j'ai revu Marc et sa femme donc en arrivant à Lacanau. J'ai été encore plus émue parce que j'ai compris, parce que j'avais vu le Porche avant que tout soit détruit, je l'ai vu après. Que c'est vraiment dramatique.
Alors, restez avec nous, Sandra. C'est un cri du cœur que pousse Sandra Stéphane Lesser-Mesbah, non?
C'est beaucoup d'émotion.
Absolument.
C'est déjà une des premières choses. Et puis ensuite, moi, sapeur-pompier, j'ai beaucoup de, comme mes collègues, beaucoup de tristesse à ce que la sécurité civile ait failli cet été. Et les responsables, ce n'est pas ceux qui sont sur les feux. Les responsables, ils sont au-dessus de nous. Et, c'est, et il va falloir qu'à un moment donné, on dise la vérité aux sinistrés, parce qu'il y en a marre de cette langue de bois, de ces mensonges, de quand vous levez le petit doigt et que vous osez dire que quelque chose ne va pas, on est soit des méchants, un jour on va nous traiter de terroristes, on en est là quand même. Et surtout, nous, ça fait des années qu'on le dit, en fait, ça. L'été a simplement permis de mettre au grand jour ce que nous, on dit. Et il y aura d'autres événements comme ça.
Excusez-moi, ce qu'on a vu sur le Covid, hein, où il manquait de masques, où il manquait de ceci, où il manquait de cela. Hein.
Mais moi, je vous parle pour la sécurité civile.
Oui.
Mais je suis d'accord avec vous. L'exemple de la sécurité civile peut se démultiplier par le passé.
Par
et exactement, il ne se démultipliera pas sur l'avenir, parce qu'on a tout, ils ont tout détruit, de toute façon. Les services publics n'existent plus. Celui qui reste aujourd'hui, c'est encore la sécurité civile, parce qu'on est les ramasse-miettes de tout le reste, en fait. Mais le jour où ça s'arrêtera, il faut comprendre que 80% c'est des volontaires. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, je vous le dis. Hein. Le jour où ils arrêtent, la sécurité est finie. Elle est finie. C'est pas les 44 000 ou même les 60 000 si on arrive à avoir 20 000 postes. Donc je ne comprends même pas qu'un gouvernement, enfin les gouvernements, parce que je vais pas accuser qu'un seul gouvernement, je ne comprends
c'est
pas
dans la durée.
Qu'ils ne comprennent pas le trésor qu'ils ont dans les mains, en fait.
Mais
et ça,
question,
je ne comprendrai jamais.
Une question que je vous pose, Stéphane, et on va écouter Sandra aussi. On a beaucoup parlé pendant les incendies de cet été, notamment dans la Gironde, mais pas que. Il y en a eu ailleurs, il y en a eu dans les Landes, il y en a eu dans l'Aude.
Dans le nord de la France.
Dans le nord de la France, en forêt de Fontainebleau d'ailleurs, hein, à 60 km de Paris.
Ça ne va pas s'améliorer. Pas rangeant, parce que si vous voulez, là, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les arbres et les forêts sont là pour que le climat, on va dire, pour que le dérèglement climatique...
Pour absorber du CO2 et absolument.
Exactement. Et quand on traverse, notamment, comme vous dites, c'est partout en France, c'est dans l'Aude. Mon frère, j'ai une partie de la famille qui est dans l'Aude aussi. Il y a des feux gigantesques. Donc, ça veut dire moins d'arbres.
Oui.
Ça veut dire que le dérèglement climatique, de toute façon, il y a un réchauffement de certains. Moi, pour être dans certaines ONG, on prend 2 degrés dans la tronche. Ça veut dire que cet été qui a eu là était crucial. Cet été-là détermine notre avenir. Et malheureusement, si ça continue comme ça, on va droit dans le mur pour nos enfants.
Mais tout le monde a oublié que le printemps 2026 a été extrêmement arrosé et qu'on a eu des régions françaises, notamment à l'ouest, complètement gorgées d'eau, en fait.
Oui.
Et on aura peut-être, alors je ne vais pas reprendre mon épisode Cévenol, je vais prendre l'épisode Méditerranée, comme ça je suis un peu plus large, mais on aura peut-être aussi des phénomènes dramatiques. La Méditerranée à 30 degrés, 29-30. C'est hallucinant.
Ah ben, tout à l'heure, j'ai pu constater cet été, en rentrant dans l'eau, on mettait pas longtemps avant de rentrer.
Ouais, et c'est pas forcément agréable. Le journaliste météo nous disait 35 degrés.
Rémi André.
Ouais. Oui. Bah, 35 degrés au mois de septembre.
Oui,
c'est beaucoup plus supportable. La même période, en plein mois de juillet, on aura encore plus de 40. C'est ça la vérité.
Oui.
Le soleil est beaucoup plus loin aujourd'hui, donc c'est ce qui nous fait gagner. Mais il ne faut pas se réjouir d'avoir un septembre chaud, enfin doux.
Restez avec nous, Sandra. On doit faire une courte pause. On va continuer à en parler. Tiens, vous voulez réagir, Mathéo, le 0826-300-300 ?
Exactement. Si vous souhaitez continuer de parler de cette mobilisation des sapeurs-pompiers à partir d'aujourd'hui, un seul numéro, le 0826-300-300.
Et éventuellement, je participe à sudradio.fr et SMS au 7-20-18. On se retrouve dans quelques instants avec bien évidemment Stéphane Lesser-Mesbah, Sandra, et on a Eric également qui veut s'exprimer. Lui vient également du sud, mais pas le même coin, plus dans les montagnes. On se retrouve dans quelques instants.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Retour des vraies voix écoutent la France et on a le plaisir de recevoir Stéphane Lesser-Mesbah, porte-parole du syndicat Sud10 en ce premier jour de mouvement des pompiers. On avait Sandra de Lège-Cap-Ferret, on va prendre Eric dans quelques instants de l'Ariège qui nous a appelé au 0826-300-300. Vous aviez une question, Mathéo Lamblot.
Oui, pour Stéphane Lesser-Mesbah. Donc on voit beaucoup en milieu rural des campagnes de recrutement, notamment à cause d'un manque d'effectifs dans pas mal de casernes. Mais finalement, est-ce qu'on donne suffisamment envie aux Français de s'engager ?
C'est surtout qu'en fait, on en demande beaucoup aujourd'hui.
Mmh.
Quand on commence à s'engager sapeur-pompier volontaire, parce que vous me parlez des pompiers volontaires, je ne vous dis pas le bagage de formation qu'on vous demande derrière. Du secours à victime, de l'incendie, du secours routier, de l'opération diverse, etc., etc. Tout ça, c'est pris sur leur temps de repos.
Ah oui ?
Ah.
Bah oui. Bah oui, ça marche comme ça.
Non mais c'est dingue.
Ah, pardon. Non, ça peut être pris sur les vacances.
Ah oui, oui.
Voilà.
Donc le temps de repos.
Bah, ça marche comme ça, en fait. Donc comprenez qu'à un moment... Quand j'ai commencé en 94... L'espérance, j'allais dire de vie, excusez-moi du lol, mais l'espérance d'un sapeur-pompier en activité, c'était entre 25 et 30 ans. Voilà, ils duraient, moi les anciens qui m'ont formé, ils avaient 30 ans de service minimum. Aujourd'hui, à 5 ans, ça décroche. Parce qu'on en demande toujours plus en fait. Ça ne s'arrête jamais. Comme on fait tous les services de l'État finalement, quand vous avez un pompier volontaire qui est couché, qui le lendemain va travailler à l'usine ou ailleurs, et que vous allez le sonner pour une mission qui n'est pas une mission sapeur-pompier, une fois ça va aller, deux fois ça va aller, mais au bout d'un moment, un, il réveille toute la famille, parce que quand le bip sonne, je vous dis pas le bruit que ça fait, il faut quand même que ça réveille du monde.
C'est clair.
Donc, si vous avez des enfants en bas âge, c'est mort. Et ensuite, il faut travailler derrière tout ça. Donc on perd forcément... Alors ils ont cette foi, mais en fait, elle n'est pas du tout encouragée par les gouvernants, en fait. La seule chose que nos gouvernants arrivent à peu près à faire, c'est nous mettre une médaille quand on est mort. Pour le reste, c'est... Vous voyez, le ministre n'était même pas là aujourd'hui. On parle aussi des pompiers volontaires quand on parle de la sécurité civile. Donc il pourrait très... Lui qui est le patron des pompiers, soi-disant. Il aurait pu être là. Voilà.
On a Eric de l'Ariège. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, les vraies voix.
Alors vous avez été pompier professionnel et pompier volontaire, c'est ça ?
Alors j'ai été pompier professionnel, jeune sapeur-pompier avant, ça fait 50 ans que je suis dans les pompiers. Et je suis de nouveau pompier volontaire, là, pour terminer ma carrière tranquillement, pour aider les copains, et puis voilà. Mais moi j'en veux beaucoup aux politiques qui sont à l'origine de tous ces problèmes et de toutes ces conflictualisation de ce qu'on voit aujourd'hui avec nos collègues qui sont en grève. Parce que pourquoi ils sont à l'origine de tout ça ? Parce qu'ils ont déconstruit les textes qui avaient construit la sécurité civile. Que la sécurité civile aujourd'hui, le principe même de sa construction est devenu obsolète. Parce que les pompiers volontaires, les pompiers professionnels, ben, ils sont tous à bout de souffle et puis on n'a pas le personnel, on n'a pas le matériel et il faut faire quand même, il faut faire quand même. Les feux qu'il y a eu cet été, c'était incroyable.
Ah ben, les images étaient terrifiantes, quand on regardait au journal télévisé, c'était, il n'y a pas d'autre mot, terrifiant. Hein.
Ah ben oui, mais vous savez, nous on a des feux un peu particuliers parce qu'on est en zone de montagne.
Oui, l'Ariège, oui, c'est zone montagnarde, voilà. Oui.
Zone de montagne, on a des collègues qui mettent 3 heures à pied pour monter jusque là où le feu il est installé parce que on n'a pas les hélicos ou on n'a pas les moyens de transport aérien qui nous permettent de monter sur la montagne. Donc il faut y aller à pied chercher l'incendie. Alors, vous imaginez bien qu'une journée où vous avez fait 3 heures pour monter, 3 heures pour redescendre, quand vous avez travaillé 2 heures, le lendemain vous êtes cuit. Hein, si vous êtes pompier volontaire, comment vous faites pour retourner au boulot ?
Mais alors, restez avec nous, Eric. Eric qui connaît bien les pompiers, puisqu'il a eu les deux statuts. Il y a un sujet, je voulais le poser, mais on n'avait pas le temps quand on a eu Sandra. On a beaucoup parlé cet été, notamment lors des feux en Gironde, des problèmes du nombre de bombardiers d'eau ou de bombardiers de retardants, parce que les avions ne bombardent pas que de l'eau, parfois ils bombardent du retardant. Est-ce que c'est vrai ? Il y a un manque ? Est-ce que...
Ben oui, c'est
qu'est-ce
vrai.
Qui se passe ?
Ben, ce qui se passe déjà, c'est qu'on a la même flotte que les années 80.
Oui, donc 40 ans plus tard.
Voilà. Ce qui est assez simple à comprendre, c'est que la forêt française continue de grandir. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, mais en tout cas, chez nous, la surface boisée augmente à peu près 10-15% tous les 10 ans. Mais c'est déjà pas mal.
Ça fait, oui.
Dans le même temps, on a supprimé 1000 camions feux de forêt. On
Et
est passé de 5... Bah parce qu'il faut les restrictions budgétaires. Il y a 15 ans, un camion feux de forêt avait 48 km² à couvrir.
Oui.
40, pardon. Aujourd'hui, on est à 48 km². On a pris 8 de plus, en fait, avec 1000 camions feux de forêt.
Ça fait 20% de plus.
Mais oui, c'est exactement ça, en fait.
Donc, mais avec beaucoup moins de camions.
Et avec beaucoup moins de camions. Quand vous me parlez des moyens aériens, en fait, la sécurité civile de demain, c'est pas que les bombardiers, c'est pas que les canadaires, c'est pas que les hélicos, c'est aussi de l'intelligence artificielle, c'est aussi des drones. Il y a tout ça. Quand j'ai oublié Eric, je crois.
Eric
nous parle justement de. Oui. Alors, le drone ne fera pas tout, en fait. Il faut bien comprendre, un drone, c'est 1000 litres. Un canadair, c'est 6000. Vous allez me dire, on en met 6, ça fait la même chose. Non, parce qu'il y a aussi l'effet souffle du canadair quand il largue. Vous voyez, c'est une masse complète qui tombe. Si vous la coupez en 6, ça ne fait pas la même masse.
C'est
ça ne fait pas le même résultat. Par contre, dans les feux compliqués, où on ne peut pas accéder, ou alors dans les... Vous savez qu'en Gironde, ça brûle toujours. Vous êtes au courant qu'il n'est pas éteint. Le dernier feu de 2022, 18 mois.
Hein. Oui.
Donc voilà, alors il n'y a plus l'image spectaculaire, mais on est sûr de la tourbe. Ça va continuer de brûler.
Ça brûle en sous-sol.
Mais exactement, ça va continuer de brûler pendant 18 mois. Le drone peut être aussi là pour larguer l'eau à cet endroit-là. Et puis l'IA, dans le département 45, ils ont sorti une caméra IA qui est en train d'apprendre, qui fait la différence entre un champ qui est retourné par un agriculteur et qui fait de la poussière et un départ de feu. Vous voyez, et en fait l'IA va nous géolocaliser directement. Vous voyez, elle peut calculer par rapport à la météo, par rapport à un moment T. Où est-ce qu'il faut l'attaquer tout de suite, en fait? L'IA sert aussi à ça. Ça ne sert pas qu'à faire des belles images, et encore pas toujours belles, sur les réseaux sociaux, en fait. L'IA, l'IA, elle peut nous aider. Et c'est cette sécurité civile de demain qu'on veut, en fait. Quand on vous dit, il faut 2 milliards. Ah oui, tout le monde dit, ça peut faire bizarre. Mais on a besoin de ça pour aller plus loin, en fait. Il y a 20 ans, le monde venait... Alors j'exagère peut-être, je suis peut-être trop chauvin, je suis désolé, mais une partie du monde, occidentale en tout cas, venait en France voir comment on traitait nos feux de forêt. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est en guerre, qui vient en France.
C'est hallucinant.
Il y a quand même quelque chose qui ne marche plus.
Il y a quelque chose...
Et quand j'entends le président Macron, que j'adore, qui nous parle de faire 3 parcs pour 2 milliards d'euros, et puis là, il nous sort le Festival international du jeu vidéo.
Oui.
Mais je me dis, le président de la République, il n'a pas autre chose à gérer en ce moment. Enfin, quand on dit qu'ils sont déconnectés, est-ce que le terme est même pas assez fort? On n'est pas assez fort là-dessus. Ils sont pas déconnectés, ils sont hors sol, ils sont lunaires, ils sont martiens, ils sont même plus avec nous, en fait. Donc comment voulez-vous qu'on se comprenne? Je pense que quand nous on voit rouge, ils voient noir. Donc à un moment donné, juste pour vous dire, si la population ne comprend pas que cette sécurité civile, c'est leur bien, c'est un trésor que nos anciens nous ont légué, si elle ne comprend pas ça, on n'y arrivera pas. C'est pas 44 000 pros qui seront pas de toute façon en grève parce qu'ils seront en caserne. Mais si on est 2 000, 3 000, 4 000 à Paris en fin du mois, ça ne suffira pas. Il faut que la population et les communes nous aident. Les communes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Éclairer le maximum de monuments au coût le moins onéreux. On veut pas dépenser d'argent public parce qu'on n'en a pas. En rouge, on veut le septembre rouge. La population, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle met des nœuds rouges sur les rétros des voitures, sur l'antenne de la voiture, ou on met un linge avec un message, un cœur, un merci,
soutien
aux pompiers. Et en fait, on fait de ce pays, en moins de 25 jours...
Comme on tapait sur les casseroles pendant le Covid pour remercier
exactement.
Les soignants
à 20h. Il faut que tout devienne rouge, de la plus petite commune de France à la plus grande, c'est-à-dire à la capitale.
On va redonner la parole rapidement à Eric et à Sandra. Eric, vous qui êtes pompier depuis longtemps, vous êtes d'accord avec l'analyse de Stéphane Lesser-Mesba?
Oui, en partie. Après, moi, ce que je peux rajouter, c'est que les moyens aériens... dans les années 90, ça remonte pas à hier, hein, c'est bien plus ancien que ça, on avait l'Hercule 530 qui venait, donc qui était un gros porteur, qui venait compléter.
Oui, très gros porteur,
déjà
Hercule.
Dans les années 90. Aujourd'hui, on a l'A400M. Il y en a un qu'on a vite fait équiper avec du matériel pour dire deux. Mais je veux dire, le Chinook qui est venu là, avec des milliers, il peut larguer même plus qu'un Canadair.
Le double.
Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On sait faire des avions, on sait faire. Qu'est-ce qu'on attend pour équiper la sécurité civile avec des avions, avec des moyens aériens?
De dernière génération.
Mais bien sûr.
Après, ce qui compte quand même, excusez-moi, ce qui compte quand même dans tout ça, c'est aussi le temps de réapprovisionnement de l'engin, en fait. Quand vous prenez la 400M, alors ils ont fait des belles images pour la télé, ça c'est vrai, mais est-ce que vous savez combien de temps il faut pour recharger le 400M?
Assez longtemps, parce que lui, il ne veut pas recharger sur un lac, contrairement à
Il faut
à
qu'il
Canadair.
Retourne. Et on le pose pas n'importe où, déjà.
Oui.
Donc il repart en base, 3 heures pour le remplir une fois qu'il est en base. Vous imaginez le feu de Gironde, en 3 heures, le nombre d'hectares qu'il avait parcouru? L'avantage du Canadair, c'est que 6000 litres, mais par contre, en écopant, en quelques minutes, il est plein, en fait.
Ah, même,
Il est venu charger sur la Seine, hein, pour les feux de Fontainebleau.
Oui, absolument.
Voilà. Faites ça avec la 400M.
Oui, non,
c'est impossible.
Il ne peut pas se poser sur la Seine.
Donc, à un moment donné, ce que je veux dire à Eric, il a tout à fait raison, mais en fait, on a besoin de beaucoup de choses, en fait. On n'a pas besoin que de Canadair ou d'HBE. Enfin, d'hélicoptères, pardon. Exactement.
Et puis. Hélicoptère bombardier d'eau.
Exact. Oui, parce qu'il faut que j'arrête de parler trop pompier. Et puis, juste quelque chose. Avant, on traçait un trait. Le sud de la France, on le défend pour ses feux de forêt. Et le reste, ça brûlait pas.
Bah
aujourd'hui,
ça brûle.
Donc, il va falloir déployer. On a le droit à la même sécurité. Moi, je viens du Morvan. On a mis du sapin partout. Du sapin de Noël et autres. Et ben, le Morvan brûlera. On n'aura pas des catastrophes, certainement pas des catastrophes comme on a connu en Gironde, parce qu'on a encore beaucoup de bois qui sont feuillus, mais enfin, ils font table rase de tout ça. Et donc, c'est pour faire comprendre à l'ensemble de la population, les bois vont continuer de brûler, ainsi que le reste de l'espace naturel.
Sandra, vous avez entendu nos amis Eric, hein,
oui,
qui est appelé aujourd'hui sur une situation, et Stéphane. Vous voulez leur dire quoi? Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez vu ce manque criant que vous avez de la famille pompier lors des incendies?
Oui, donc mon ex-mari, on est d'accord. Et puis bon, moi, je suis très observatrice. Je pense qu'il faut aussi écouter les gens qui connaissent leur territoire. C'est-à-dire que moi, avant l'été, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose, parce que déjà, j'avais remarqué dans nos forêts, notamment au truc vert, que c'était mais sec, mais comme jamais, et depuis bien longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas en prévention, c'est dans ma tête, hein, peut-être que ça viendra un jour aux oreilles de l'État. Déjà humidifier, parce que vous savez, l'argent gaspillé, notamment à Paris, hein, notamment on va parler, excusez-moi sans langue de bois, de ce qui s'est passé avec Vitan et compagnie, où ils ont balargué de l'eau pas possible pour leur événement. Cette eau-là aurait pu servir, par exemple, à arroser des zones très sèches en Gironde, en prévention. Notamment aussi, il faut se rappeler qu'il y a une loi qui a été votée pour les Canadiens. Normalement, on devait avoir 2 ou 3 Canadaires de plus. Cette loi a été rejetée partout, notamment, enfin moi je suis apolitique, hein, mais par le RN, etc., par les partis. Donc,
alors ça,
oui,
j'ai pas vérifié le vote, je sais pas, mais...
oui, c'est sûr. Je me renseigne, j'ai un petit média, donc je me renseigne sur tout. Et je peux vous dire que oui, bien sûr que les moyens, il en manque, et que actuellement la France est incapable à cause des moyens qu'ils n'ont pas attribués aux pompiers. Aux pompiers, voilà, faut bien le dire, puisque ce sont les bénévoles qui ont aidé les pompiers, les agriculteurs que Madame la Préfète ne voulait pas au départ. Tant qu'il n'y aura pas de moyens.
Les agriculteurs mouillaient le maillot, on peut pas dire autrement. Il faut les remercier aussi.
Oui, elle en voulait
aussi.
Pas pourtant. Hein. Elle en voulait pas au départ, mais après elle a compris que si. C'était à 15 minutes de Bordeaux quand même, hein, le feu. Donc là, ils se sont dit, il faut qu'on y aille. Donc Monsieur Macron y est donc allé. Il n'a pas compris, il pensait que les Canadairs pouvaient survoler les incendies la nuit. Un Canadair ne survole pas, les incendies la nuit. Voilà, donc il faut d'abord se renseigner avant de parler. Voilà, donc ça ne l'a pas empêché de faire du jet ski pendant que les pompiers et les bénévoles ont continué à éteindre les fumoirs. Parce que comme disait Stéphane, il faut savoir que pendant 18 mois, comme en 2022, il y a le feu dessous, la terre, quoi, qui couve. Donc il y a quand même eu encore des bénévoles et des pompiers qui sont sur le terrain pour tout surveiller. Et que là, ça va être dramatique. Alors, dans les années, Sandra, à venir, s'il n'y a pas de moyens.
Sandra, on va laisser le mot de la fin à Stéphane Lessière-Mesbin.
Oui.
En conclusion, alors pour votre mouvement.
Alors,
il va durer, a priori.
Ah bah il va durer, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, il va durer.
Faut j'invite... pas lâcher les gars.
Bah, vous inquiétez pas, on va pas lâcher, mais si on n'a pas la population, on n'y arrivera pas. À un moment donné, on a besoin, on a aussi besoin de vous tous. Donc je vous le redis, la sécurité civile, c'est la vôtre avant tout. Moi, je suis acteur de la sécurité civile, mais j'en suis aussi utilisateur. Enfin, j'espère le moins possible, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut, j'invite la population à bien regarder ce qui se passe. On a 8 syndicats hein, sur 9. Oui. Hein. Donc, il y a le choix pour aller s'informer. On est sur les mêmes revendications. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. Et ce qui est important, c'est que chaque chose que le citoyen peut faire pour nous, et il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais j'aurais aimé qu'on en parle, c'est aussi de cette culture du risque. Parce que ce que Sandra vient de dire, justement, juste avant, c'est aussi cette culture du risque. Si on forme les citoyens français à la culture du risque, on n'aura plus, en principe, quelqu'un qui va débroussailler en plein à 40 degrés. Ça, oui. Ça ne doit plus exister, en fait.
C'est clair.
Et surtout, il doit y avoir des réactions immédiates. Parce que le feu du départ, moi, j'ai discuté avec les gens de Gironde, hein. Du collectif. Oui. Le feu de départ est petit, en fait. Hein. Il aurait pu être traité, en fait. Hein. Et ça, vous pouvez aller vérifier. C'est certain, en fait. Donc, le sous-traitant d'Enedis aurait jamais dû faire ça. En fait, on débroussaille pas en pleine canicule. On débroussaille à la fin de l'été, à la fin du printemps, quand c'est encore humide, quand c'est vert. On a eu 2 problèmes. Beaucoup d'eau cet automne et cet hiver, ce qui nous a fait une végétation luxuriante, qui a séché au mois de juillet, en mois de juin.
En
le pire moment, comprenez bien qu'une canicule au mois de juillet, au mois de juin, pardon, c'est le soleil se couche à 22h. En ce moment, à 20h, il fait nuit.
Oui.
On n'est pas sur la même
20h30,
chose. 20h30, on va pas se disputer pour ça. Mais vous voyez, en fait, tout est important dans ce qu'on raconte, en fait. Et il faut vraiment que les Français comprennent. Donc, mobilisez-vous, prenez ce dossier sécurité civile, parce que si, là, pour une fois, c'est vraiment les sapeurs-pompiers et la sécurité civile, on a vraiment besoin de vous aujourd'hui.
Merci Stéphane Lessière-Mesbin, porte-parole du syndicat Sud-10. Merci à vous Sandra Eric, famille de pompiers et pompiers, pour vos témoignages. Dans quelques instants, on va passer à un autre sujet, les buralistes et les bistrotiers. Et
nos buralistes qui eux aussi, sont en colère et qui ont enclenché aussi une grève depuis hier.
Eh bien, on en reparle tout de suite. Vous voulez réagir, le 0826 300 300.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Les vraies voix écoutent la France. On a beaucoup... On a passé trois quarts d'heure avec les pompiers. Mmh. C'était passionnant avec des familles de pompiers, des pompiers volontaires. Et vraiment, c'est un conflit qui commence aujourd'hui et qui risque de durer. Et on le suivra bien évidemment sur Sud Radio. On va parler rapidement d'une autre problématique, c'est celle des buralistes.
Mathéo. Qui réclament un gel de la fiscalité sur le tabac, mais aussi la fin de l'indexation des prix du tabac sur l'inflation. Et pour en parler, nous recevons Serdar Kaya, président de la Confédération des buralistes.
Bonsoir Serdar Kaya.
Bonsoir.
Alors, vous protestez contre la hausse des prix du tabac. Vous avez quelques problèmes également dans votre profession. C'est pour ça que vous voulez réagir.
Mais oui, complètement. Je crois que là, c'est le réseau complet qui est mobilisé. 22 500 buralistes dans plusieurs villes en France qui se mobilisent de ce lundi jusqu'à vendredi à Vernon chez le Premier ministre. Parce que tout simplement, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour un réseau qui est aujourd'hui mis en lumière à chaque fois lorsqu'on dit « Vous êtes un commerce essentiel, vous êtes un commerce de proximité. » Et chaque 1er janvier, c'est le coup de massue avec un prix qui augmente par une indexation de l'inflation, une fiscalité punitive. Et là, c'est plus possible. Et donc, on a décidé de sortir pour exprimer notre colère.
Alors, la question, est-ce que vous... Parce qu'on entendait notre ami pompier qui disait qu'il n'était pas écouté par les pouvoirs publics. Vous êtes président du syndicat des buralistes, président national de la Confédération des buralistes. Vous êtes écouté par les pouvoirs publics ou ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre ?
Moi, je crois que les pouvoirs publics, les décideurs politiques, ils doivent prendre conscience que ce que nous demandons, ce sont des choses lucides. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on les rencontre, bien souvent, le décideur politique va nous dire « j'entends votre colère, j'entends vos revendications » et puis il n'y a plus rien. En fait, les pompiers, nous et d'autres corporations professionnelles qui représentent des commerces en difficulté, eh bien, on a le sentiment d'être juste entendus. Mais nous, ce qu'on demande, c'est un courage politique de leur part.
Alors, on a un de vos confrères qu'on connaît bien sur Sud Radio, puisqu'il est à Foulayronne, dans le Lot-et-Garonne. C'est Pierre Ferland. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe.
Alors vous, vous êtes bistrotier et buraliste, les deux à la fois. Quand vous entendez Serdar Kaya, on peut supposer que vous êtes d'accord.
Je suis complètement d'accord avec Serdar. Notre métier est en grand danger et bon, on ne se fait pas trop entendre, mais bon, comme je rejoins Serdar aussi sur le fait, ben, tout en général, les pompiers, l'agriculture, les hôpitaux, il y en a un ras-le-bol général, j'ai l'impression en fait.
Il y a un ras-le-bol général. Ben justement, vous, en tant que bistrotier, vous avez entendu la proposition de Gabriel Attal d'aller dans 1000 bistrots pour parler aux Français. Est-ce que les Français, ils en parlent dans votre bistrot tabac des élections et qu'est-ce qu'ils en disent ?
Qu'est-ce qu'ils en disent ? Ben, les Français se posent beaucoup de questions pour l'avenir aujourd'hui, parce que bon, il y a une multitude de choses, et aujourd'hui, c'est de l'insécurité, hausse de pouvoir d'achat, on perd notre économie, l'éducation aussi, comme j'ai pu entendre par la suite, enfin, ce que vous avez dit juste avant.
Oui, sur les classements PISA désastreux, oui.
Exactement, et tout ça, dans nos commerces, on l'entend tous les jours, parce que c'est un... Toute la population se réunit pour parler un peu de ça et ils en sont quand même très inquiets de la suite.
Serdar Kaya, vous êtes d'accord avec ça ? Vous, tous vos confrères, ils en parlent. Ils sont assez inquiets de l'avenir et de ce qui se passe en ce moment en France ?
Bien sûr qu'ils sont inquiets. D'ailleurs, vous savez, le réseau des buralistes, on peut être à 300, 500 kilomètres des uns des autres, on fait le même constat. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a 10 millions de clients par jour. Et moi, je crois qu'aujourd'hui,
ça fait un septième de la population, pratiquement, c'est vrai que c'est énorme.
C'est énorme et je dirais même que désormais le réseau des buralistes a décidé de jouer au rapport de force. On met en compétition les candidats à la présidentielle pour dire qu'à un moment donné, quelle est votre vision et qu'est-ce que vous décidez pour le réseau. Mais moi je vous dirais très rapidement qu'on demande au gouvernement actuel d'agir très vite dès la lecture du prochain budget pour qu'il puisse geler le prix du tabac, parce qu'au-delà de ça... S'il continue cette fiscalité punitive, encore une fois, on va se retrouver par une contrebande qui explose. Donc je dirais finalement, ils ont entre leurs mains l'avenir d'une société qui peut s'améliorer ou s'apaiser, ou bien laisser l'installation du trafic dans tout le territoire.
Pierre Ferland, vous êtes un peu dans le centre de la France, loin des frontières. Vous êtes frappé aussi par la contrebande dans Lot-et-Garonne ?
Loin, je dirais pas quand même.
Enfin, l'Espagne est bien à 200 km, quoi.
Bien sûr qu'on est frappé. Quand l'Ariège a été fermé pendant 3 mois, on a bien sûr vu que nos ventes sont remontées. C'est ça a été significatif. Pendant 3-4 mois, nos ventes sont remontées. Ben là, c'est reparti à la baisse. Mais c'est pas étonnant, quoi.
Et vous êtes d'accord avec ça, Serdar Kaya ? Tout le monde est touché aujourd'hui, même au plein centre de la France. Je sais pas, moi, dans le Cher ou quelque part à côté, l'Allier, etc.
Ah oui, on avait ce jour une mobilisation à Givors, on avait les collègues du Puy-de-Dôme, de l'Allier, le même constat partout, parce que le trafic désormais s'installe. Vous savez, c'est une organisation logistique qui est au point par tous les territoires. Hein. Désormais, vous avez un paquet de cigarettes à 6-7 euros, que vous soyez à Clermont-Ferrand ou à Brest, ou bien à Strasbourg, vous l'avez. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Et vous êtes en plein mouvement, donc le mouvement, il se termine en fin de semaine à Vernon, chez eux. J'allais dire Gabriel Attal, pas du tout, chez Sébastien Lecornu, c'est ça ?
Exactement, on se mobilise pour le dernier rendez-vous, mais ce n'est pas la fin d'une mobilisation, parce que le réseau des buralistes est un réseau résilient. Mais on se retrouvera à Vernon, et j'invite le Premier ministre à venir s'adresser au réseau des buralistes pour dire qu'est-ce qu'il décide de faire sur le prochain budget, est-ce qu'il gèle le prix, ou bien à l'inverse, s'il veut laisser tomber le réseau des buralistes, à lui de prendre ses responsabilités avec son gouvernement.
Mais on en parlait il y a quelques instants avec les pompiers. Vous avez des élus locaux également, Pierre Ferland. Le maire de Fouleyronnes, il vous en dit quoi quand vous dites bah, « nous on a un problème, on a de la contrebande ici, alors il n'y a peut-être pas de police municipale », comment ils réagissent les pouvoirs publics locaux ?
Ils entendent, ils nous écoutent. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus ? Ce sont des petits maires de village, ils sont là auprès de nous, mais aujourd'hui, ils ne nous disent pas grand-chose. Hein. Après, l'idée de M. Attal d'aller dans les cafés, tout ça, rencontrer la population et entendre ce qu'ils ont à dire, je pense que c'est une bonne idée, mais après... Il faut aussi que ça suive derrière, entendre la population, mais il faut appliquer après ce que la population dit aussi.
Alors écoutez, on va suivre ça de près également, parce qu'on aime beaucoup nos buralistes sur Sud Radio, qui sont vraiment un lien de vie, je le répète. Merci beaucoup Serdar Kaya, président national de la Confédération des buralistes, et Pierre Ferland, bistrotier et buraliste, à Fouleyronnes. Si jamais Gabriel Attal vient au Maryland, vous nous tenez au courant, Pierre, hein.
Mais on l'accueillera avec plaisir.
C'est à quelques kilomètres d'Agen. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Merci Mathéo, on se retrouve demain soir de 19 oui. à 20. Et pour les vrais voix avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger de 17h à 19h. Tout de suite, vous retrouvez Anthony Martin-Smith. Et rendez-vous ensuite Jacques Pessis, les clés d'une vie. Et rendez-vous également demain matin avec notre ami Jacques Cardoz et Benjamin Glaise auparavant en pré-matinale. Allez, à demain.